tient. Alors, on continue d'explorer ce thème, toujours en ayant le bonheur d'écouter des personnes qui ne sont pas du tout du champ professionnel de la protection de l'enfance. Et ce thème, ce qui nous tient, cette réflexion sur les relations qui nous lient, aujourd'hui sont examinées du côté de la relation entre les humains et les animaux. Alors c'est un thème qui est très intéressant et très compliqué, très intéressant parce que, évidemment, on s'est aperçu en formation avec M. Laboret que quand nous avons regardé ce film avec les enfants où des buffles, des lions, des crocodiles essayent d'établir un territoire, et donc chacun ayant ses propres intérêts pour occuper ce territoire, ça a beaucoup fait réagir les enfants, mais aussi il y a eu quelques échanges avec les adultes sur dans notre vie de groupe dans nos maisons, sur les sites de l'association, d'un regard, ce regard expert de l'éducateur qui détecte, qui voit que un enfant est en cours de réintégration dans le groupe, ou au contraire d'exclusion du groupe, alors même qu'on n'a pas d'information, le constate de visu. Hein. Et puis cet orang-outan, cette femelle orang-outan qui s'appelle Watana, qui est une femelle orang-outan qu'on a regardée aussi en formation, qui est fille et petite-fille de maman singe placée en zoo, qui n'a jamais connu la liberté, et qui passe son temps dans sa loge, Watana, à faire des nœuds improbables. Hein, rappelez-vous. Voilà. Donc c'est très intéressant. Et c'est très compliqué aussi, parce qu'il ne s'agit évidemment pas de dire que nous sommes des animaux, et que nous nous comportons en animaux, et que ici, dans une institution de protection de l'enfance, on serait plus part. Et il y aurait des comportements qui relèvent du bestial. Donc la crête est fine entre toute cette intelligence dont on peut apprendre en écoutant M. Bourguin, qui est un professionnel qui travaille tous les jours avec des animaux, et puis la juste distance qu'il convient de respecter pour se rappeler sans cesse qu'ici nous réfléchissons en permanence à l'humain, l'humanité. La commune humanité, s'inscrire dans la longue histoire de l'humanité. Voilà, M. Bourguin, je vous remercie beaucoup pour cette conférence. Et puis, je sais par ailleurs que pas mal de personnes ici vous connaissent déjà et gardent de très bons souvenirs de votre activité avec des enfants autrefois. On en reparlera lors des échanges questions-réponses après la conférence. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Oui, en fait, vous disiez au départ que je n'étais pas de votre milieu professionnel, mais je l'ai fréquenté pendant un certain nombre d'années, à une époque d'une association qui s'appelait Jonas. Alors, je sais pas, mais il y a certaines têtes que j'avais pas vues depuis très longtemps, et puis que je revois, on a vieilli. On a beaucoup vieilli. En fait, c'était dans les années 90, et à cette époque-là, Nozika allait ouvrir ses portes, et on avait créé des liens avec cette association Jonas. Cette association Jonas qui travaillait avec des enfants, comme vous les petits là, et avec qui on allait découvrir la mer. Parce que, je vais peut-être m'asseoir, la mer en fait, on a constaté à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui c'est encore peut-être un petit peu la même chose, c'est qu'à Boulogne, Boulogne, c'est Boulogne-sur-Mer. Boulogne, c'est le premier port de pêche de France. Boulogne, ça a toujours été un port de pêche. Et la population boulonnaise, elle était très tournée vers la mer. Parce que c'était là qu'on allait chercher notre moyen de subsistance. Et puis, au fil du temps, il y a eu de moins en moins de marins-pêcheurs. Et puis, il y a eu une autre vie qui s'est développée sur la terre, qui a fait qu'on s'est un petit peu détourné de la mer. Et que même si on habite au bord de la mer, eh bien on est toujours plus ou moins en train de tourner le dos à la mer, un peu comme Napoléon sur sa colonne, qui ne veut pas regarder les Anglais, mais qui regarde pas la mer non plus. Et donc l'idée de Jonas à l'époque, c'était, je fais juste une petite aparté, hein. C'était l'idée de Jonas, c'était de dire aux enfants qui habitent sur le plateau du Chemin Vert, par exemple, ou qui habitent dans n'importe quel quartier de Boulogne, ou dans n'importe quelle ville ou village aux alentours, de retourner un peu vers la mer. Et donc à cette époque-là, eh bien, on avait un petit flobar qui était sur la plage du Portel. On allait à la pêche avec les enfants. Alors les enfants en question, ils ont grandi. Il y en a peut-être même qui sont devenus éducateurs, je ne sais pas. Peut-être. Non, je ne sais pas, il n'y en a pas. Et puis, eh bien, on a développé ce contact avec les enfants vers la mer. Alors, l'association, elle s'est développée. Il y a eu de nouveaux bateaux avec de nouveaux contacts. Donc, on travaillait avec la maison de l'enfant de la marine. Alors, tout ça, ça a été chamboulé. Aujourd'hui, moi, je reconnais encore les têtes, mais alors les noms des structures, j'en sais trop rien. Et puis, un beau jour, bah, je suis passé à autre chose. Et puis, en 1998, à Nausicaa, on m'a confié les otaries de Nausicaa. Alors, auparavant, je m'occupais de poissons. Alors, les poissons, ça vit dans l'eau, c'est pas très, ça parle pas beaucoup. Ça bouge, mais ça n'a pas forcément beaucoup de comportements qui soient interprétables facilement par l'humain. Et puis, quand je suis arrivé avec des mammifères marins, bah là, je me suis trouvé face avec autre chose, qui se rapproche plus de ce qu'on peut avoir à la maison, comme un chien ou un chat. Où là, ben, on peut très bien créer un contact. Et le travail qu'on a mis en place avec les otaries à Nausicaa, c'était un travail qu'on a mené avec notre vétérinaire, parce que notre vétérinaire, c'est une vétérinaire consultante qui vient une fois par mois, qui vient un jour dans le mois, et qui est un petit peu comme quand on va chez le médecin pour se faire ausculter. Si on refuse de se faire ausculter par le médecin le jour où on doit se faire ausculter, ben on reviendra le mois prochain pour le prochain rendez-vous et on n'aura pas eu l'auscultation. Donc l'objectif du vétérinaire, c'était de considérer qu'il fallait absolument apprendre aux animaux à se laisser manipuler le jour où la vétérinaire venait pour pouvoir faire des radiographies, des échographies, des prises de sang, des intubations, des endoscopies, etc. Et en fait, à partir du moment où on a dit on veut absolument avoir accès à l'animal facilement, à partir du moment où on a considéré que l'animal c'était avant tout un animal sauvage, même si les animaux qui vivent dans les parcs zoologiques sont, la plupart du temps sont des animaux qui sont nés en captivité, de parents nés en captivité, ils demeurent malgré tout des animaux sauvages. C'est-à-dire que autant un chien, un chat, une vache, un cheval, c'est un animal domestique qui a été domestiqué par l'homme depuis des milliers d'années, autant les autres animaux garde cette vision de la relation avec l'homme qui est totalement différente de celle qu'on peut avoir avec un cheval, par exemple. Bon, même si un cheval, bah, il faut quand on a un jeune cheval, il faut bien évidemment l'entraîner, il faut lui apprendre un certain nombre de règles, mais c'est beaucoup plus facile. Et ce sont des animaux qui ont été extrêmement manipulés par l'homme dans leur comportement, que cette manipulation, bah, elle s'en ressent aussi dès que l'animal naît. Alors qu'un animal sauvage, lui, ben, il va demeurer malgré tout très sauvage. Donc j'avais d'une part, d'un côté, une personne qui était notre vétérinaire qui souhaitait avoir accès aux animaux, et puis de l'autre côté, des animaux qui ne savaient rien faire d'autre que de vivre leur vie d'animal, c'est-à-dire nager dans un bassin, c'est-à-dire manger du poisson, c'est-à-dire n'avoir que très peu de contact avec l'humain, et avec qui il fallait développer une relation. Alors, il existe différentes techniques qui permettent de créer cette relation. Alors, les techniques qui sont utilisées, ça peut être le conditionnement tel qu'il a été développé, par exemple, par Pavlov. Donc ça, vous connaissez sans doute beaucoup ces techniques. Et puis, il y a le conditionnement opérant. Alors, le conditionnement opérant, c'est une autre technique qui a été développée par un médecin qui s'appelait Skinner, qui était américain, et qui a considéré en fait que notre vie, notre quotidien, nos comportements sont conditionnés par ce qui s'est passé auparavant. Alors ça, c'est très vrai, c'est-à-dire que ma vie aujourd'hui, elle est conditionnée par ce qui s'est passé ce matin, par le chemin que j'ai emprunté en arrivant jusqu'ici, qui n'est pas un chemin qui ressemble à tous les chemins que j'ai pu emprunter jusqu'à présent et qui m'a obligé à vraiment faire très attention avec la voiture. Donc en fait, dans notre vie, eh bien, on est conditionné par ce qui s'est passé auparavant. Et le conditionnement opérant utilise cela. C'est-à-dire que le conditionnement opérant, je ne sais pas si vous, vous connaissez... Est-ce qu'il faut que je vous en parle plus précisément? Je pense, oui. Alors, le conditionnement opérant, lorsqu'on fait un geste, lorsqu'on fait un mouvement, eh bien, on peut, en fonction de ce qui va se passer après, être amené à reconduire ou ne pas reconduire ce mouvement. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, la main sur le feu, ben vous allez, la prochaine fois, vous allez faire attention et puis ne plus mettre la main sur le feu. C'est-à-dire qu'un enfant qui a 2 ans et qui touche un feu, ben il va se faire brûler et puis la fois suivante, il ne va pas recommencer parce qu'il a compris que c'était un petit peu négatif. Et donc, ce qu'on a mis en place avec nos otaristes, c'est cette technique de conditionnement opérant avec un souhait qui était le nôtre de développer cela de manière positive. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un comportement, il s'ensuit une conséquence, et en fonction de cette conséquence, elle est positive ou négative, avec un renforcement qui est positif ou négatif. Alors, lorsqu'on travaille avec des animaux, on va considérer que le renforcement qui est positif, qui est le plus positif pour eux, c'est la nourriture. Mais avec les enfants, par exemple, si je te demande de te lever et que je te donne un bonbon, à chaque fois que je vais te demander de te lever, tu vas te dire, bah, il va me donner un bonbon. Donc je vais te renforcer avec un bonbon, donc c'est positif. D'accord? Tu comprends? J'ai pas de bonbon dans la poche, hein, je suis désolé. Et donc, en fait, l'idée, c'était de considérer qu'on allait développer une technique basé sur le renforcement positif, la nourriture, plutôt que des renforcements négatifs. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, l'animal fait un geste, et pour qu'il ne le fasse plus, je peux très bien lui taper dessus. Et puis au bout d'un certain temps, il va arrêter de le faire. On peut très bien lui demander de faire un geste, enfin, on ne lui demande pas de faire un geste en fait. L'animal, au départ, en fait, ce qui se passe, c'est que une otarie, elle a un certain nombre de comportements qui sont naturels. C'est-à-dire, par exemple, marcher, c'est un comportement naturel chez une otarie. S'allonger sur le sol pour dormir, c'est un comportement naturel. Et nous, notre objectif, en fait, c'est de mettre sous contrôle ce comportement. Alors, ça se passe de la manière suivante. L'animal est devant vous, il ne sait rien faire, et vous allez attendre le moment où il va faire un comportement que vous considérez comme étant intéressant, qui va vous amener ensuite à faire évoluer ce comportement vers ce que vous souhaitez mettre en place. Et lorsque vous allez le voir faire ce comportement, vous allez lui dire « Bravo, c'est bien, tu as fait le comportement que je souhaitais. » Alors bien évidemment, au début, l'animal, lui, ne comprend pas ce que vous lui dites. Et comme vous lui dites que c'est bien et que vous lui donnez une récompense à travers un poisson, eh bien, lorsqu'il va réitérer ce comportement, vous allez recommencer à lui dire que c'est bien, et lui donner un poisson. Et puis au fur et à mesure, en fait, il y a une mécanique qui va se mettre en place. C'est-à-dire qu'au départ, cette technique de travail, c'est quelque chose qui est très mécanique. C'est-à-dire que c'est un peu Charlot sur sa table dans le film, où il fait, il met une pièce, et puis il est renforcé positivement ou négativement, suivant ce qu'il fait. Et là, en fait, c'est très mécanique au départ. C'est-à-dire que l'animal, lui, ne comprend pas pourquoi vous lui dites que c'est bien. Il ne comprend pas pourquoi vous le récompensez, mais comme vous le récompensez et qu'il est content et que son estomac est content, bah, il finit par comprendre qu'à chaque fois qu'il va le faire, il va avoir cette récompense. Alors, nous, on a mis en place cette technique avec des otaries, mais à l'origine, Skinner, lui, il a mis en place ça avec des rats, dans ce qu'il appelait la boîte de Skinner. C'est-à-dire que la boîte de Skinner, en fait, c'est une cage dans laquelle il y a une trappe qui donne accès à de la nourriture. Mais en fait, quand on met le rat dans la boîte, dans la caisse, le rat ne sait pas ce qui va se passer. Donc il va explorer la caisse, il va chercher à voir s'il n'y a pas de la nourriture dans la caisse, et puis à un moment donné, il va toucher le système qui déclenche la trappe. La trappe s'ouvre, la nourriture tombe. Donc le rat, ben, il dit, ben, il y a de la nourriture, je mange. Il va continuer sa petite vie, il va continuer à chercher dans la caisse, et puis il va retomber sur le système de déclenchement, et puis hop, à nouveau il y a de la nourriture qui tombe. Et puis il va finir par comprendre que à chaque fois qu'il a faim, il suffit d'aller appuyer sur le système pour faire tomber de la nourriture. Les otaries, on pourrait très bien imaginer le même système, mais en fait, sauf que le système qui déclenche l'arrivée de la nourriture, c'est le soigneur qui est en face de l'otarie. Et le système de déclenchement de la tombée de la nourriture, c'est ce que nous, on utilise à travers le geste « c'est bien » ou « ok » ou le sifflet ou le cliqueur. Le cliqueur, c'est un petit clic qu'on fait. Et ensuite, il y a l'arrivée de la nourriture. Alors Skinner, il a commencé à faire ça avec des rats dans son laboratoire. Et puis après, ben, il s'est dit, ben, un rat sait faire ça, je vais peut-être explorer ça avec d'autres espèces. Alors il a même fait ça avec sa fille. Alors je n'ai pas vu comment c'était. Il a conditionné sa fille de la même façon. Alors, on peut très bien imaginer conditionner les gens de cette façon-là. Sachez par exemple qu'aux États-Unis, il y a des gens qui s'occupent de dauphins et qui ont conditionné leurs enfants dans les premières années de leur vie de cette manière-là. C'est-à-dire que par exemple, quand je parle de récompenses positives comme la nourriture, la récompense ça peut être aussi par exemple un jouet. Et lorsqu'un enfant va apprendre à jouer, en fait il a besoin d'être aidé. Il va falloir qu'on lui apprenne les règles. Donner un jeu de tarot à un garçon. T'as déjà joué au tarot, toi? Non, je te donne un jeu de cartes et tu vas faire avec. Mais tu vas jouer, tu connais les règles? Ouais, mais un jeu au tarot, tu sais, tu connais la règle du tarot? Donc, qui est-ce qui va t'aider à connaître les règles du tarot? Tes parents ou un éducateur? Quelqu'un plus grand qui a déjà joué au tarot? Et en fait, un enfant, quel que soit le jeu, même un ballon, si on ne lui montre pas qu'avec un ballon, il peut jouer au football, ou qu'il peut lancer la balle et la lancer à un autre, etc., eh bien, il va prendre la balle, il va jouer avec pendant 2 minutes, et puis il va passer à autre chose. Il va aller chercher autre chose qui est beaucoup plus intéressant, un bout de bois, des cailloux pour les jeter sur les carreaux, ou comme ça, ça fera du travail à certains. Et en fait, il faut apprendre. Et nous, ce qu'on a mis en place avec nos otaries, quand on fait, par exemple, on met en place des jeux, des enrichissements, eh bien, il faut leur apprendre à jouer. Et cette technique, en fait, on l'a fait avec nos otaries. Et certaines personnes aux États-Unis qui travaillent avec des dauphins, alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins pratiqué parce que ça a quand même été assez décrié par y compris les gens de la profession. C'est-à-dire que on ne peut pas comparer un être humain à un dauphin, même si dans nos comportements, on peut partir sur le même principe de mode de fonctionnement à la base. Je dis bien à la base, c'est-à-dire que nous, on considère par exemple qu'une otarie, elle peut développer son intellect, on va dire, jusqu'à l'âge d'un enfant de 2 ans. Après, au-delà, elle n'a pas le cerveau que nous, on peut avoir, même si elle a un cerveau qui est développé pour d'autres fonctions dans son quotidien, c'est-à-dire que vivre dans la mer, vivre dans l'eau, ça suppose une connaissance du milieu dans lequel on vit en 3D, et c'est pas notre milieu à nous. Nous, on vit malgré tout, même si on est en 2D, on est en 3D. Un dauphin, un poisson, une otarie, elle sait quand elle est sous l'eau où est le haut et où est le bas. Nous, on nous met dans une bassine et puis on nous met dans l'eau et on nous retourne dans tous les sens. Il va y avoir un moment où on ne va plus savoir si où est le haut, où est le bas, et on va essayer de nager vers le haut et on sera en train de plonger vers le fond. Ces animaux-là seront adaptés. Les dauphins, eux, par exemple, ils ont un système de repérage qui est le sonar, qui a un mode de développement particulier, qui fait qu'il y a, eux, à la rigueur, les dauphins, ils ont une plus grande partie de leur cerveau qui est en fonctionnement à la rigueur que le nôtre, mais pour d'autres fonctions que les nôtres. Alors, les otaries, pour en revenir aux Américains qui ont mis en place cette technique avec leurs enfants, et puis à Skinner avec sa boîte, avec ses rats, lui s'est dit, ben, je vais essayer de mettre en place cette technique avec autre chose, avec d'autres espèces. Alors, c'était dans les années 40, 50, par là. Je suppose qu'il n'avait pas forcément des budgets gigantesques pour réaliser ses travaux de recherche. Et quand il allait au marché, il y avait des poules, alors il a dit, je vais essayer avec des poules. Alors une poule, c'est pas très très intelligent, une poule, hein, ça vit dans son poulailler, ça mange ses graines, ça gobe les mouches sur le grillage, et puis ça n'attend qu'une chose, qu'on l'attrape et puis qu'on la mette au four, et puis voilà quoi. En gros, c'est ça, pour nous. L'animal domestique, c'est ça pour nous. Alors après, elle a sa vie de poule, elle a le coq qui est en haut de son tas de fumier et qui commande son harem de poule. Mais bon, en tant qu'être humain, on peut considérer qu'une poule, ça a une petite tête et donc ça a un tout petit cerveau. Et que ça a sans doute un cerveau qui est moins bien développé que celui d'un rat, puisque un rat, c'est quand même un mammifère un peu plus développé qu'une poule. Et en fait, il a mis en place cette technique avec des poules. Donc, la poule, qu'est-ce qu'elle sait faire? La poule, elle sait picorer. Alors, la poule, quand elle picore, ben, avec son bec, elle pique à terre. Donc, il s'est dit, ben, je vais, quand la poule va venir picorer sur cet objet, eh bien, je vais la récompenser. Je vais siffler, je vais lui dire que c'est OK, et puis je vais donner une graine. Et puis, en fait, la poule va très vite comprendre que à chaque fois qu'elle va toucher cet objet, eh bien, elle va recevoir une récompense, la nourriture. Alors après, il s'est dit, ben, oui, la poule, elle sait faire ça. Maintenant, moi, j'aimerais bien que ma poule sache reconnaître, par exemple, une carte parmi X cartes d'un jeu de cartes. Alors, un jeu de cartes, c'est pas évident. Entre les trèfles, les piques, les cœurs, etc., les dames, etc. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appris à sa poule à reconnaître une carte précise en la récompensant à chaque fois qu'elle tapait dessus. Bon, au début, la poule n'avait pas le choix, elle n'avait qu'à taper sur une carte. Et puis après, il a ajouté une deuxième carte et à chaque fois, il lui demandait même pas, la poule d'elle-même allait taper sur la carte. Et au bout d'un certain temps, s'il étalait un jeu de cartes de 32 cartes sur la table, avec la carte en question au milieu, bah la poule, elle allait cliquer, taper sur la carte en question. Donc, il a compris que ça fonctionnait. Et il a compris surtout que, en récompensant un bon comportement réalisé, eh bien, la probabilité que ce comportement se réalise à nouveau était de plus en plus importante. Et nous, en fait, à Nausicaa, c'est ce qu'on a mis en place avec nos otaries. Alors, la première chose qui a été mise en place, c'était déjà apprendre aux animaux à se mettre en place. C'est-à-dire que là, vous êtes tous assis bien calmement devant vous, devant moi, mais on pourrait très bien considérer que lors d'une conférence, tous les participants sont en train de tourner autour du conférencier qui parle tout seul et qu'on écoute quand même, mais c'est un autre mode de fonctionnement. Nous, on a appris depuis toujours, dès qu'on est jeune, comme les petits jeunes qui sont là, que ben, quand il y a une conférence ou quand on est au cinéma, ben, on s'assoit sur une chaise et puis on regarde en face de soi. Mais on pourrait très bien avoir un autre système. C'est-à-dire que demain, avec les lunettes 3D, avec les systèmes interactifs qu'on a aujourd'hui, on pourrait très bien tous se trouver dans une salle de cinéma en train de regarder le même film, mais en train de circuler, en train de faire du vélo ou faire de la course à pied en même temps. On pourrait très bien imaginer ça. Donc on a appris que quand on est au cinéma ou quand on est face à quelqu'un, ben, on se positionne d'une certaine manière. Donc, la première chose qu'on a appris à nos animaux, c'était à se mettre en place. C'est-à-dire que se mettre en place, c'est considérer que maintenant, tu as fini de jouer, tu as fini de t'amuser avec tes copains, c'est un moment plus sérieux et je vais te demander de me porter attention. Alors, c'est ce qu'on fait quand on est à l'école. Et à travers notre travail, on ne fait que mettre en place des choses qui existent déjà avec les êtres humains depuis très longtemps. Et pour mettre en place ce système, en fait, il fallait leur apprendre une place. C'est-à-dire que c'est pas évident pour un enfant, un bébé qui a 2 ans, de lui expliquer qu'une chaise, c'est une place. Une chaise, c'est un objet parmi tant d'autres. Et il peut s'asseoir à terre, il peut s'asseoir sur une table, il peut s'asseoir n'importe où. Et donc, il faut leur apprendre ça. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un apprentissage qui permettait de demander aux animaux de venir à une place bien précise. Alors la place bien précise, c'est un rocher bien précis, c'est un support en bois sur lequel l'animal va se poser. Alors au début, c'est pas évident, c'est-à-dire que l'animal, ben, il va venir devant vous et vous allez l'obliger à venir se mettre sur quelque chose. Et dès qu'il va mettre sa patte, son flipper, sur cet objet, et ben, vous allez lui donner un poisson. Et puis au fil du temps, en fait, il va comprendre que, à force de se positionner sur cet objet, à chaque fois, il a une récompense, donc il va y rester plus longtemps, jusqu'au moment où il va carrément venir se mettre en place. Et quand on va lui dire « en place », parce qu'on associe à chaque fois à ses comportements des gestes et des paroles, eh bien, de manière automatique, il va venir se mettre en place. Après, cette place, on voulait la faire se déplacer. Donc, c'est-à-dire que la place n'avait pas une géographie particulière, un nord et un sud particulier, un point géographique, mais c'était une place qui était ma place par rapport à l'environnement dans lequel je vis. Donc là, on s'est dit, ben, pourquoi pas apprendre aux animaux une forme. Une fois qu'on mettait cette forme à un endroit donné, dans l'espace, eh bien l'animal allait sur cette forme, et cette forme, c'était sa place. Ça permettait, par exemple, de déplacer les animaux tout en leur disant, quel que soit l'endroit où vous êtes dans la pièce, ben, vous êtes à votre place. Et puis ensuite, on a fait évoluer les choses et on a mis en place les différents comportements qui allaient permettre de réaliser ce que voulait le vétérinaire au départ. Alors, tout ça, ça passe bien évidemment par une technique qui est le conditionnement opérant, qui est le renforcement positif, dont je vous ai parlé avant. Mais ça passe aussi par une confiance qui se crée entre la personne avec qui l'animal travaille et l'animal lui-même. Et comme je vous disais tout à l'heure, au départ, nos comportements, ils sont conditionnés par ce qui s'est passé avant. Moi, les otaries, quand elles sont arrivées à Nausicaa, les premières qui sont arrivées, elles avaient déjà un certain âge. Il y en a deux qui venaient des Pays-Bas, à Ardebeek. Il y en a une qui venait du zoo d'Anvers. Il y en a trois qui venaient d'Allemagne. Et il y en a une, alors ce qui s'est passé, c'est que quand on a mis en place, quand on a construit le bâtiment, en fait, c'est jamais livré en temps et en heure. Ceux qui bâtissent, ils perdent toujours un petit peu de temps. Mais par contre, on avait déjà, entre guillemets, commandé nos animaux. Et donc, il fallait aller les chercher dans les parcs zoologiques où ils vivaient pour les débarrasser de cet endroit. Et donc on s'est dit, ben, on va les mettre ailleurs. Donc il y a par exemple une de nos otaries qui venait d'Allemagne, qui est allée dans un parc zoologique en France, dont je ne parlerai pas, je ne donnerai pas le nom. Comme ça, si jamais vous y allez, vous en aurez toujours une bonne vision. Cette otarie, il y a une personne qui est allée la conduire, donc elle était jeune, elle avait un an. Et elle est allée la chercher 3 mois plus tard, et quand elle est revenue, elle a dit, c'est bizarre, c'est pas la même otarie. Elle n'a pas le même comportement, elle est bizarre. Bon. Donc on l'a mise en quarantaine dans un local pendant quelques jours pour voir son acclimatation. Et puis le lendemain, du jour où elle est arrivée, je suis rentré dans le local pour nettoyer à terre, parce qu'elle avait fait caca à terre, et puis il fallait bien laver à terre. Et elle m'a sauté sur le balai. C'est-à-dire que pour elle, le balai, c'était pas un balai, c'était un outil qui sert à autre chose qu'à balayer. Et cette otarie, elle est devenue, au sein du groupe, en fait, l'animal dominé. C'est-à-dire que dans un groupe, quel qu'il soit, d'humains ou d'animaux, il y a une hiérarchie qui se crée. Et chez les otaries, c'est quelque chose qui est très très développé. C'est-à-dire que dans un groupe d'otaries, il y a le mâle dominant, il y a les femelles, il y a les mâles dominés, les jeunes mâles, les jeunes femelles, qui sont en train de s'émanciper. Et chacun, quelque part, a sa vie propre. Et ses relations avec les autres, elles sont établies selon une hiérarchie. Et en nature, ce qui se passe, c'est que les otaries, ce sont des animaux qui se reproduisent chaque année au même endroit, à la même période. C'est-à-dire au mois de mai-juin, sur les côtes en Californie, les mâles otaries de Californie arrivent sur la côte, définissent leur territoire. Et puis, ça se passe en se battant entre mâles. Donc, on évacue les mâles les moins costauds. Parce que les plus costauds, bien évidemment, ce sont eux qui ont les gènes les plus meilleurs et qui vont perpétuer l'espèce de la meilleure façon qui soit. Un animal qui est faible, déjà de naissance, ou qui a des tares, on va dire, qu'elles soient physiques ou mentales, ben, il ne va pas avoir les mêmes capacités à réagir face aux autres qu'un mâle qu'on va considérer comme étant dominant. Donc une otarie qui domine, eh bien elle va prendre un territoire, et puis elle va attendre patiemment qu'arrivent les femelles. Et puis quand arrivent les femelles sur la plage, eh bien son objectif c'est de récupérer un maximum de femelles. Donc une otarie, elle peut avoir 10, 15 femelles avec elle. Les femelles arrivent sur la plage, elles vont mettre bas le jeune qui a été de l'année précédente, et puis 10, 15 jours après, le mâle va couvrir la femelle pour l'année suivante. Les femelles vont rester sur la plage avec les jeunes, à les allaiter. Les mâles, eux, vont repartir, parce que ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et ils sont contents, et ils vont aller vivre leur vie de mâle de leur côté. Et puis les femelles vont vivre en harem de femelles avec les jeunes pendant un certain temps. Les jeunes qui ont un an, deux ans, ils vont commencer à s'émanciper. Ils n'ont plus besoin de lait, donc ils vont quitter la maman. Ils vont aller vivre en groupe de petites femelles ou en groupe de petits mâles. Et puis un jour où les jeunes mâles vont considérer qu'ils sont devenus costauds, ils vont aller s'affronter avec les plus gros sur la plage. Et jusqu'au jour où les plus gros et plus vieux sont devenus tellement faibles qu'ils sont remplacés par les plus jeunes. Voilà. Donc dans la nature, c'est comme ça se passe. Et en captivité, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une hiérarchie qui se passe également. Alors, quand vous avez un groupe de mâles et de femelles, bien évidemment, la hiérarchie, elle est générée de manière automatique. Il y a le mâle et ses femelles. Il va avoir des jeunes. Alors, quand c'est une jeune femelle qui naît au bout des années qui suivent, elle peut rester dans le groupe, même si on va lui interdire de se reproduire avec son père, parce qu'au bout d'un certain temps, génétiquement, ça ne va pas forcément être très très bon. Par contre, si c'est de jeunes mâles, quand le jeune mâle commence à avoir 2 ou 3 ans, en fait, généralement, il va se faire massacrer par son père. Donc, il faut les séparer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, quand on a eu nos otaries, quand on a cherché nos otaries, nos ICA, à l'époque, c'était avant tout un aquarium. Donc, on n'avait pas énormément de contact avec le milieu zoologique. Et on nous a proposé à 90% des mâles. Parce que, bien évidemment, les gens étaient très contents de se débarrasser de leurs mâles. Et il y a un certain nombre d'institutions dans les parcs zoologiques qui n'ont que des mâles parce que ça aide aussi à caser des animaux à des animaux de ce type qui ne peuvent pas vivre en RM. Et très vite, en fait, il s'est développé une hiérarchie entre ces mâles. Et pour en revenir à l'otarie qui avait vécu une mauvaise histoire dans sa jeunesse de relations humaines, puisqu'en fait, elle avait dû se faire tabasser dans un parc zoologique où, en 98, on tabassait et en 2015, on tabasse toujours. Mais ça, c'est une façon de travailler qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la mienne et qui n'est pas respectueuse de la nature. Mais bon, on peut le dire aux gens, on peut leur expliquer, y compris à ceux qui font ça, c'est pas forcément évident. Alors, je reviendrai après sur la raison pour laquelle ça peut ne pas être évident. Donc cette otarie, en fait, donc quand elle est arrivée, que je suis rentré dans le local et qu'elle m'a sauté dessus avec le valet, je me suis dit, bon, d'accord, j'ai une otarie qui est agressive. Alors je peux considérer qu'elle est agressive, c'est-à-dire que je suis rentré avec le valet pour balayer à terre, et l'otarie m'a agressé, puisqu'elle m'a sauté dessus et elle voulait soit me mordre ou mordre le valet. Donc je pouvais avoir cette pensée-là vis-à-vis de l'animal. Je pouvais aussi me dire, et c'est ce qu'on a fait, pourquoi est-ce que l'animal a sauté sur le balai? Et comment est-ce que je peux faire pour que elle ne continue pas à considérer le balai comme un outil qui sert à lui taper dessus? Donc le but du jeu, ça a été pour nous de considérer qu'il ne fallait pas qu'on aille dans le sens vers lequel l'animal tendait à nous faire aller de manière inconsciente. C'est-à-dire que l'animal vous saute dessus, donc vous réagissez en lui sautant dessus. Et c'est à celui qui va gagner. C'est à celui qui va être le plus fort. Là, notre but, c'est pas d'être le plus fort face à une otarie. Autant entre êtres humains ou entre otaries, on peut se comparer les uns aux autres. Autant face à un animal sauvage qui fait 200 kilos, qui court aussi vite que nous sur Terre, qui a une mâchoire de très gros chiens, avec une puissance qui est cette fois celle d'un berger allemand, donc qui vous casse un bras. On peut venir avec une camisole, on peut venir avec une armure, et puis se présenter devant le public pour faire l'animation. Oui, c'est bien. On peut rester derrière des barreaux et puis parler aux gens lors de l'animation derrière des barreaux avec les animaux derrière les barreaux. Oui, c'est possible. Donc nous, notre but, c'était de dire, ben, l'animal, il a eu sans doute un problème. Alors on ne le décèle pas forcément tout de suite. C'est après, avec le retour, qu'on se dit, on a bien agi pour lutter contre ce mauvais comportement. Mais sur le coup, ben, on se dit, je ne vais pas aller dans le sens où lui veut m'emmener, c'est-à-dire lui taper dessus pour le contraindre à m'obéir. Le but du jeu, c'était de dire, ben, on va essayer de casser ce comportement. Donc, alors, pour casser un comportement, on peut très bien, par exemple, le mettre sous contrôle. C'est-à-dire que un animal qui a un comportement qui n'est pas souhaité, ça peut être un réflexe permanent. C'est-à-dire quelqu'un qui fait tout le temps ça, par exemple. Voilà. Il va faire ça 100 fois dans l'heure. On peut très bien, via le conditionnement opérant, mettre ce comportement sous contrôle, et ensuite, ce qu'on appelle, on fait de l'extinction, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, avec cette personne, elle va comprendre qu'à chaque fois qu'elle fait ça, on va siffler et puis on va lui donner une récompense. Et au fil du temps, en fait, on s'arrange pour réduire, en fait, pour augmenter la période entre deux comportements comme ça. Jusqu'au moment où on va dire qu'on a considéré que le comportement, il a été, il disparaît, parce que justement on l'a mis sous contrôle. Si on le laisse faire, il va continuer à faire ça toute sa vie, etc. Donc là, avec le coup du balai, en fait, les jours qui ont suivi, en fait, on a commencé à travailler avec l'animal. Donc on venait avec le balai, mais on venait aussi avec une récompense. Et quand l'animal ne tapait pas dans le balai, ben, on lui donnait une récompense. Jusqu'au moment où il a compris que le balai pouvait être dans l'espace, il n'allait rien se passer, on n'allait pas l'embêter avec ce balai. Et à chaque fois qu'il ne ferait rien avec le balai, ben, il allait avoir à manger. Donc il était très content et il a fini par ne pas comprendre que le balai, ça n'était pas grave. Alors, pour en revenir un petit peu en amont, il faut considérer le caractère de chaque individu. C'est-à-dire que le conditionnement opérant, je disais au début, c'est quelque chose qui est très mécanique. C'est-à-dire que l'animal fait un comportement, on dit c'est bien, on le récompense. Donc c'est mécanique, 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 mécanique. Mais il y a aussi un autre paramètre, il y a la relation qu'on crée avec l'animal. C'est-à-dire que nous, on connaît maintenant nos animaux, chaque animal a son visage. Moi, mes otaries, je les reconnais comme je vous vois vous. C'est-à-dire que chaque personne a son visage, c'est très caractère, c'est très physique, etc. Et puis c'est très de caractère. Et on fait aussi en fonction de ce caractère. Alors ce caractère, on apprend à le connaître en fréquentant l'individu. Et puis on agit différemment en fonction de l'évolution qu'on veut faire, on veut mettre en place avec les comportements en considérant ce caractère. C'est-à-dire qu'on a notre mâle dominant, lui il est dominant vis-à-vis des autres, mais il cherche aussi tout le temps à être dominant vis-à-vis des personnes. Donc lui il est quand même relativement dangereux, on va dire. C'est-à-dire qu'il peut très bien mordre. Et bien évidemment, on a mis en place des techniques qui nous permettent d'avoir accès à l'animal, de lui faire des prises de sang. Mais cette technique, elle n'est pas forcément mise en place de la même manière. On a des systèmes de protection qui font que ben, il ne va jamais tendre à aller nous mordre, par exemple. Alors ça se passe généralement dans un groupe. Il y a d'une part l'animal agressif qui est le mâle dominant, parce que lui, il veut garder sa dominance. Donc il est toujours sur l'offensive. Et puis ensuite, à l'autre extrémité, il y a l'animal dominé. Donc ça, c'est celui qui s'est fait taper quand il était petit. L'animal dominé, qui lui, est toujours aussi agressif, parce que justement, il est dominé. Et il est toujours, lui, sur la défensive. C'est-à-dire que lui, autant le gros, il va se ramener vers vous, il va dire, c'est moi le patron, c'est moi le chef ici. Autant le plus petit qui est en bas, il va être tourné vers le fond de la salle. Et puis, dès que vous allez vous ramener vers lui, il va considérer que vous êtes en train de l'agresser. Donc, il va vous sauter dessus. Donc, il y a ces deux extrêmes. Et puis, au milieu, il y a les autres qui, eux, sont... qui ont chacun aussi leur caractère. C'est-à-dire, il y en a un qui s'appelle Speedy. Alors, lui, il est très speed. Quand on lui a donné son prénom à la naissance, on lui a pas donné ce prénom-là par hasard. Enfin, c'est un hasard, mais il est très speed. Et puis, il est un petit peu tout fou. Lui, il a un petit poids dans le cerveau, mais il fait tout ce qu'on lui demande de faire. Il est très content, il est très gentil, il aime bien le contact avec les gens, mais c'est un tout fou. Après, il y en a un autre qui est beaucoup plus réfléchi. Et nous, on avait un animal qui est décédé depuis, qui lui était très très réfléchi dans la relation qu'il avait avec les autres, mais aussi avec nous. C'est-à-dire que dans notre travail au quotidien, on avait d'une part cette volonté de mettre en place ce qu'on appelait l'entraînement médical, mais aussi offrir aux animaux d'autres activités. C'est-à-dire que concrètement, l'entraînement médical, c'est dans une vie d'enfant scolarisé, on va dire, c'est le moment où l'enfant en fait est dans la salle de classe, qu'il est assis et qu'il écoute la maîtresse et qu'il écrit et qu'il travaille. Mais à l'école, il y a aussi d'autres moments où on s'éclate, c'est la récréation. Et nous, notre but, en fait, dans notre vie au quotidien avec nos animaux, c'est de leur offrir différents types d'activités. C'est leur offrir du travail, donc c'est le médical, où là, en fait, on demande à l'animal de ne rien faire. Puisque pour faire une prise de sang, on lui demande de se coucher au sol. Et puis pendant qu'on va prendre du sang, il reste là, calme, il ne bouge pas, il ne fait rien. Et puis après, il y a d'autres moments où il faut un petit peu s'agiter, il faut faire du sport. Et donc là, on leur demande de sauter dans le bassin, on leur demande de faire des tas de choses. Et puis après, il y a d'autres moments où, autant le médical, c'est être calme, on essaie aussi, à travers différents comportements, de leur faire développer un petit peu leur mental, à travers, par exemple, la reconnaissance de forme. Donc tout à l'heure, je parlais des cartes à jouer, et nous, on a fait la même chose, par exemple, avec les lettres de l'alphabet. Donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'animation à Magica, mais en fait, pendant l'animation, on montre un petit peu ces différents comportements qui ont été acquis par les animaux. Et puis, il y a d'autres choses qui ont été mises en place, mais c'était plus des travaux scientifiques. C'est-à-dire que nous, on a travaillé à une période avec des universitaires de Strasbourg. À Strasbourg, il y a un centre de primatologie dans lequel il y a des singes. Ils ont des grands singes, des orang-outans, des chimpanzés, et puis ils ont aussi des lémuriens. Et lorsque on a... Et lorsque ce centre de primatologie en fait, travaille sur différents comportements en lien avec les comportements humains. Alors, il y a un comportement qui les intéressait, sur lequel ils ont travaillé pendant un certain temps, c'était le fait que, par exemple, lorsqu'on va présenter un paquet de bonbons à un enfant qui a 2 ans, il va prendre le paquet de bonbons et il va manger tous les bonbons tout de suite. Lorsqu'on va lui représenter le paquet de bonbons, lorsqu'il va devenir un petit peu plus grand, il va prendre quelques bonbons dans le paquet et puis il va en garder pour plus tard. Et plus tard, quand on est un enfant de 2 ans, ça n'existe pas. C'est-à-dire que dans notre évolution de notre cerveau, notre évolution mentale, le plus tard vient bien à un certain moment de notre développement du cerveau. Et ces chercheurs voulaient savoir si ce type de comportement existait chez d'autres espèces. Alors il y a des espèces chez lesquelles ça existe. C'est-à-dire que chez les primates, par exemple, dans la forêt en Afrique, lorsque c'est la période où il y a des gousses dans les arbres, etc., il y en a certains qui ont tendance à aller se servir sur l'arbre tout de suite. Donc ils vont se gaver, avoir un estomac gros comme ça. Puis le lendemain, il n'y a plus rien dans l'arbre, il n'y a plus rien à bouffer, donc ils crèvent de faim le lendemain. Et puis il y en a d'autres qui font des réserves. Donc par exemple, si vous allez même dans la forêt ici, un écureuil, à l'automne, bien sûr, il va manger des noisettes et puis il va en mettre de côté par-ci par-là parce qu'il sait que pendant l'hiver, il n'y a pas de noisettes dans les arbres et il va falloir trouver à manger. Donc ça, ce sont des choses qu'on a acquises, nous, et que les animaux ont acquis au fil de l'évolution. Alors, les chercheurs de Strasbourg ont travaillé avec des lémuriens et ont essayé de voir si ces animaux étaient capables de comprendre que on pouvait garder quelque chose pour plus tard. Alors, les techniques qui sont utilisées, c'est pas forcément leur présenter un paquet avec des mûrir, on peut travailler avec des graines, des choses comme ça. C'était pas forcément leur présenter un paquet de graines et puis leur dire ben, faites ce que vous voulez, soit vous en gardez, soit vous n'en gardez pas pour plus tard. Là, en fait, l'idée, c'est de dire en fait, on présente deux quantités de nourriture à l'animal et on lui demande, enfin, on le laisse de manière. On le laisse agir seul et choisir s'il veut la grande ou la petite quantité. Sachant que quand on va lui offrir la grande quantité, quand il va demander la grande quantité, on va lui donner la petite quantité. Alors, pour en revenir à nos otaries, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une machine sur laquelle il y avait une espèce de boîte avec des vitres. Derrière, il y avait deux boîtes. Alors derrière ces vitres, en fait, on présentait deux quantités de nourriture. Donc il y avait d'un côté 5 poissons et de l'autre côté 1 poisson. Devant les vitres, il y avait un système de poussoir à bascule. Parce que l'otarie, bien évidemment, elle a pas de main, donc il faut trouver un système. Donc elle travaille beaucoup avec le museau. Donc en fait, l'animal, quand il faisait un choix, il appuyait sur ce poussoir à bascule et puis il faisait un choix. Donc quand il allait appuyer sur le poussoir à bascule où il y avait 5 poissons, la récompense qu'il avait, c'était un poisson. Et quand il allait sur un poisson, il avait 5 poissons. Et donc ça, c'est pas du conditionnement. Ça, c'est l'animal qui décide de lui-même de ce qu'il veut faire. Et au bout d'un certain temps, on avait des animaux, dont celui, je vous parlais tout à l'heure, qui était relativement intelligent, qui allait systématiquement sur un poisson pour avoir ses 5 poissons. Et quand on le regardait agir mentalement face à la machine, généralement, en fait, les animaux étaient à peu près à 1 mètre de la machine. C'est-à-dire que l'animal était devant moi. Moi, j'étais caché derrière cette machine. Je mettais les poissons. Donc, l'animal me voyait mettre les poissons. Et ensuite, l'animal faisait son choix. Donc, il était sur un rebord. Il y avait un rebord. Et puis, il tournait la tête. Comme ça, il regardait à droite, à gauche. Et là, il y en a. Alors, sans doute, dans sa tête, il devait dire, là, il y en a beaucoup, là, il n'y en a pas beaucoup. Et puis à un moment donné, il figeait son regard vers une direction. Et lorsqu'on retirait en fait le support qui l'empêchait d'avancer jusqu'au système de clapet, eh bien l'animal allait systématiquement dans cette direction. Donc celui qui était très intelligent, il a très vite compris. C'est-à-dire qu'au bout de 10 essais, il a compris que s'il voulait en avoir beaucoup, il fallait qu'il en mange peu. Et puis il y avait l'autre, le tout fou là. Lui, c'était un petit peu au hasard. C'est-à-dire qu'un jour où il était bien luné, il allait tout gagner. Puis il y avait des jours où... Donc lui, c'était de manière totalement hasardeuse qu'il réagissait de cette manière-là. Donc c'est un exemple d'expérimentation qu'on fait qui ne concerne pas le conditionnement opérant, puisque en fait l'animal là, est libre de faire ce qu'il veut. La récompense, elle vient en fonction de ce qu'il a décidé de faire. Donc... Il n'y a pas de bien ou de mal dans ce genre d'expérimentation. Mais en fait, c'est un petit peu pour vous expliquer tout ce qu'on fait avec nos animaux. Et ce qui est très important, donc je reviens un petit peu, ça concerne le climat de confiance qu'on peut créer avec l'animal. C'est-à-dire que nous, au fil du temps, on a appris à nos animaux à nous respecter à travers le fait de venir à une place donnée, de ne pas bouger de cette place, de ne pas venir dans nos pieds au risque de nous croquer. Et puis après, il y a une confiance qui se crée. C'est-à-dire qu'il faut bien considérer que on peut très bien considérer le conditionnement opérant de manière positive, mais aussi de manière négative. On peut très bien avoir une personne qui agit avec un renforcement positif permanent. C'est-à-dire que l'animal, avec cette personne, il va toujours considérer que cette personne va lui apporter quelque chose en plus qui est positif. Et puis on peut très bien avoir une autre personne qui n'a pas la même vision du conditionnement et qui à chaque fois va lui amener quelque chose de négatif. Et c'est ce qui peut se passer c'est ce qui se passe en fait dans les communautés humaines. C'est-à-dire que dans une famille par exemple, on peut très bien avoir une différence entre le comportement du papa et le comportement de la maman face au comportement de l'enfant, qui va mener l'enfant à plus aimer papa que maman, ou inversement. Et le climat de confiance, il s'établit entre l'individu, entre l'otarie et les personnes qui s'en occupent, à partir du moment où il y a une consistance dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut tous faire la même chose. Alors, pour tous faire la même chose, ça passe, avec le travail qu'on fait avec nos otaries, par avant tout l'écriture, c'est-à-dire que et la codification des choses. Alors bien sûr, ce sont des animaux. Bien sûr, on peut considérer qu'on va travailler de manière plus mécanique qu'avec de l'humain. Mais nous, on a, par exemple, pour chaque animal, on a un classeur avec tous les comportements acquis par l'animal. Et pour tous les animaux, ce sont les mêmes fiches, le même type de remarques qui sont faites, qui permettent de voir l'évolution des choses. C'est-à-dire que quand vous allez travailler avec une otarie le lundi, si dans votre planning de travail, vous ne revenez pas travailler avant le samedi, il faut que le jour où vous revenez, vous sachiez comment s'est comporté l'animal dans le reste de la semaine. Parce que vous allez modifier votre comportement en fonction de ça. Donc il faut la technique, il faut la rigueur dans la technique, et puis la consistance dans ce qu'on fait, qui va créer un climat de confiance. Et aujourd'hui, nos otaries, elles sont là, je vous disais, elles sont là depuis 98. Donc ça fait déjà plus de 15 ans. Nous, on vit avec elles au quotidien, comme dans une maison comme ici, où il y a des adultes et des enfants. Nos otaries, elles font partie de notre quotidien. Et à la rigueur, on s'occupe plus de nos otaries que, je suppose qu'il y en a certains parmi nous qui ont des chiens ou des chats à la maison. Nous, on est plus longtemps avec nos otaries qu'on peut être avec nos chiens ou nos chats à la maison. Le chien, on vit notre vie dans la journée, on travaille. Le chien, il est tout seul à la maison ou il y a quelqu'un qui s'en occupe. Mais le soir, on rentre, on lui fait une caresse, il est content, on lui dit, viens sur le canapé, viens regarder la télé avec moi, et puis point barre, et puis c'est fini. Bon, bien sûr, il vit sa vie de chien, il est content, on va le promener, etc. Nous, avec les animaux, c'est de 8h du matin à 18h le soir, une présence permanente et un travail permanent et un contact permanent. Voilà un petit peu ce qu'on fait avec nos otaries. Je vais quand même vous laisser parler, parce que sinon je pourrais continuer indéfiniment, mais je pense que vous avez peut-être déjà des questions par rapport à ce dont je viens de parler, et puis on peut parler de tas d'autres choses.
Est-ce que vous pourriez dire qu'il y a une relation affective, alors de par l'humain peut-être, mais de l'autre côté, est-ce que vous pourriez parler d'affection de la part des animaux?
Alors ça dépend des individus. En fait, chacun, je disais, chacun a son caractère, et il y en a certains avec qui on peut avoir une relation qui est un petit peu différente de celle qu'on va avoir avec d'autres. Alors, c'est pas proprement parler la même chose qu'avec un chien, par exemple. Alors, un chien, il va remuer la queue pour vous dire qu'il est content, une otarie, elle ne va jamais remuer la queue pour vous dire qu'elle est contente. Ce sont des signes très minuscules qui font qu'on considère que l'animal vous porte un intérêt. Mais, comme je disais au début, ça demeure quand même des animaux sauvages. Donc, la relation, elle n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas montrer ils vont pas montrer qu'ils sont contents. Ils ne vont pas montrer une joie. C'est pas le chien. Nos arrêts, c'est pas un chien quand on rentre à la maison le soir et qu'il va vous sauter dessus. C'est pas ça. Tous les matins, on arrive, les otaries sont en bassin, elles nous voient, et puis elles retournent à leur plongée, et puis voilà, c'est bien.
Mais elles peuvent avoir des signes différents d'un être à l'autre, peut-être.
Ah oui, il y a des signes. Bon, c'est pas tant avec le regard, c'est plus dans le travail, dans le comportement que l'animal va avoir avec nous. C'est-à-dire que, bien évidemment, cette technique, elle ne force pas l'animal à faire ou ne pas faire. Il fait ce qu'il veut. S'il ne fait pas, il a rien. Mais il n'est pas puni. Nous, notre but, c'est toujours arriver à que ce soit positif. Et l'animal, il va montrer qu'il est heureux d'être avec nous parce qu'il va rester avec nous pendant la session de travail. C'est-à-dire qu'il y a certains animaux avec qui on peut rester travailler pendant un quart d'heure. Ils vont être allongés là et ils sont heureux d'être là avec nous. Alors il y a des choses aussi autres qui peuvent se passer. C'est-à-dire que par exemple, nous on a eu, on fait intervenir de temps en temps des ostéopathes qui viennent et qui manipulent les animaux. Alors moi je ne suis pas ostéopathe, je ne sais pas comment ça se passe, mais quand on voit l'ostéopathe avec l'animal, on se dit il se passe quelque chose. Et alors les ostéopathes qui interviennent, bon, ils arrivent à dénouer l'état de nœud qu'il y a dans le corps des otaries. Parce qu'une otarie, c'est un animal qui est très actif dans l'eau, qui est très speed et qui a plus de tendance à aller se cogner un peu partout malgré tout. C'est-à-dire que les chocs chez ces animaux-là, ça existe beaucoup. Même si on ne le voit pas trop, en fait, un ostéopathe, il va trouver des tas de choses, là, une vertébrale qui est un peu déplacée, une vertèbre déplacée, un truc qui fait que l'animal il boite ou il a des trucs. Quoi. Et en fait, quand un ostéopathe vient chez nous, bien évidemment, ce n'est pas très fréquent, mais c'est la même chose. S'il vient de loin, il faut qu'il puisse avoir accès à l'animal. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on lui confie l'animal. Alors là, il n'y a plus de nourriture, il n'y a pas de récompense. C'est-à-dire que tant qu'il est en train de travailler avec, bon, il y a le soigneur qui est là, qui a l'habitude de l'animal et qui va demander à l'animal, par exemple, de s'allonger. Ensuite, l'ostéopathe va venir se mettre en contact avec l'animal. Et les ostéopathes avec lesquels on travaille, ils nous disent après ce qu'ils ont ressenti. Et en fait, ils ressentent beaucoup plus de choses avec les animaux aquatiques, les mammifères marins, qu'ils ne ressentent, par exemple, avec des animaux terrestres, comme des chevaux. Parce que justement, il y a le milieu liquide dans lequel ces animaux vivent. C'est-à-dire que, bien sûr, une otarisse, ça a une fourrure, ça a de la graisse, ça a de la peau, ça a un cœur, ça a des poumons, tout ça, mais ça vit dans l'eau. Et il y a quelque chose qui est différent. Et l'ostéopathe, lui, le ressent. Et l'animal aussi le ressent. C'est-à-dire qu'un ostéopathe, il peut très bien rester avec un animal pendant une demi-heure, allongé. L'animal ne va rien faire. Nous, on peut même partir, il ne connaît pas l'animal. Il va rester avec et tout va bien se passer. L'animal ne va jamais avoir un comportement négatif. L'animal, il va se détendre, plus qu'il ne le fait avec nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. L'ostéopathe nous dit, on sent qu'il se passe quelque chose, mais comme on n'est pas dans la main de l'ostéopathe, on ne sait pas. C'est une autre dimension, mais il se passe des choses. Donc, l'animal, il termine la séance. Il va se relever difficilement parce qu'en fait on lui a retiré des nœuds et on l'a remis en place, mais je ne sais pas comment ça se passe. Moi j'ai jamais fait ça, mais je suppose qu'en fait comme on est remis en place, on n'est plus trop en place. Il faut se remettre debout et retrouver son équilibre. Et c'est ce qui se passe en fait avec les animaux. C'est-à-dire qu'il y a un moment en fait ils vont tituber et puis après ils vont partir et tout va bien, tout va mieux. Mais il y a un moment ils titubent parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est un peu comme une marionnette, on a démêlé les fils. Avant, avec les fils tout mêlés, on arrivait quand même à la faire bouger. Là, c'est démêlé et c'est plus facile. Mais il y a un moment où il faut reprendre la machine en route. Quoi.
Est-ce qu'un enfant aimerait poser une question à M. Bourguin?
Oui.
Combien de temps ça reste sur le sol de l'otarie?
Combien de
temps?
De dents?
Non,
de
temps.
De temps. Ça, combien de temps ça vit?
Ça reste sur le sol si on est dans l'eau.
Ah, ça peut rester tout le temps hors de l'eau. C'est-à-dire qu'une otarie, c'est un animal aquatique, mais ça peut très bien rester pendant des semaines sans être dans l'eau. C'est pas comme un dauphin. Un dauphin, lui, en fait, il a besoin de l'eau parce que sa structure osseuse, son architecture, ses os, un peu comme la charpente d'un bâtiment, elle est beaucoup moins solide que celle d'un animal ou d'un humain terrestre. C'est-à-dire que nous, nos os, ils sont faits pour qu'on soit debout. L'otarie, elle a des os pour être debout aussi, allongé, mais debout. Le dauphin, lui, il a des os pour être dans l'eau. Et une otarie, elle peut très bien rester hors de l'eau. Une baleine, par exemple, quand elle vient s'échouer sur la plage, une baleine, même si elle est encore vivante, elle va s'écraser sur elle-même. Donc, parce qu'en fait, sa cage thoracique, là où il y a ses poumons, là où il y a son cœur, ou bien même là où il y a son estomac, ses intestins, etc., c'est au-dessus, c'est pas assez solide pour que ça ne s'écrase pas sur soi-même. Toi, tu te poses pas la question tous les matins de savoir si ton cœur il est bien à sa place et s'il a de la place pour battre. Il bat, et puis c'est tout. Et bien, ces animaux-là, il faut qu'ils soient dans l'eau pour pouvoir le faire. Alors qu'une otarie, c'est un pinnipède, c'est un mammifère marin, mais qui a une vie aussi terrestre, et donc qui est adapté, qui a des os très solides, très costauds, et donc il peut rester hors de l'eau très très longtemps. Alors quand il est hors de l'eau, cet animal-là, il n'a pas le même aspect, puisque en fait, sa fourrure, elle sèche, et donc ça fait une fourrure un petit peu comme les phoques, tu vois.
J'ai une question un petit peu embarrassante pour notre directeur adjoint, M. Paris, qui nous raconte depuis quelques semaines être tombé sous le charme, depuis son arrivée à Boulogne, sous le charme d'une de vos otaries qui se prénommerait Pétula. Donc pour en finir avec cette histoire, avez-vous, oui ou non, une otarie qui se prénomme Pétula?
Alors tout à l'heure, j'ai parlé de deux otaries qui étaient tous des mâles.
Emmanuel, pardon. Je n'ai rien dit. Alors, une question plus sérieuse, ça vit combien de temps une otarie?
Alors, dans la nature, ça peut vivre entre 20 et 25 ans. Et en captivité, bien évidemment, l'espérance de vie est beaucoup plus importante parce qu'on s'en occupe bien. Et ça peut. Aujourd'hui, il y a des otaries qui ont presque 40 ans. Donc, l'espérance de vie, c'est un petit peu comme la nôtre. Au fil du temps, elle évolue vers une plus longue durée de vie. Alors, après, il faut bien considérer que quand on devient plus vieux, forcément, on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas forcément les mêmes capacités. Donc, c'est un petit peu comme. Autant une otarie qui a 15 ans, 20 ans dans la nature. Elle va mourir parce qu'elle doit mourir, parce qu'elle n'est plus capable de se nourrir, parce qu'elle a perdu ses dents et qu'elle ne peut pas se battre, etc. Donc la mort, elle va se faire de manière très naturelle. Autant en captivité, les organes aussi s'usent. Donc la vue s'use, par exemple. Et les otaries ont tendance, par exemple, à faire facilement la cataracte. Donc elles deviennent aveugles. Alors nous, on a une otarie qui a été opérée de la cataracte il y a 2 ans. Qui va beaucoup mieux, et c'est un animal qui a déjà de l'âge, et on sait quelque part que toutes nos otaries vont finir sur la table d'opération pour la cataracte. Alors c'est la même chose au niveau articulaire, c'est-à-dire que l'arthrose, ça se développe aussi comme pour tout le monde, et donc il y a un moment où dans la vie en fait on n'arrive plus à faire la même chose, et quelque part on passe dans un stade de maison de retraite. Alors nous à Nausicaa, on a considéré que à partir du moment où nos animaux arrivaient chez nous, ils allaient vivre toute leur vie chez nous et on n'allait pas les mettre dans une maison de retraite, je sais pas trop. Donc les plus vieux, lorsqu'ils vont être vraiment plus trop capables de faire grand chose, ils font plus les animations, ils seront toujours là dans le groupe, ils vivront leur petite vie, ils auront à manger, ils auront tout ce qu'il faut pour être heureux, mais on leur demandera pas de sauter, etc. Celui qui avait ce problème de caractère, par exemple, il y a une période où il était quasiment aveugle, il n'était pas question, par exemple, de le faire sauter, parce qu'il pouvait se claquer sur les rochers ou des choses comme ça.
Dernière question. Oui, une question un petit peu parallèle. On constate de plus en plus la présence de phoques, je vais le dire comme ça, dans la rade de Boulogne. Il y en a même qui disent qu'ils sont attirés par les otaries ou les animaux qui appellent ou qui font du bruit.
Alors, oui, effectivement, il y a de plus en plus de phoques et de mammifères marins sur notre littoral. Alors, il y a un certain nombre d'années, il y a très longtemps, quand on trouvait un jeune phoque échoué sur la plage, c'était un animal qui était en détresse. On allait le porter dans un centre de soins. Et puis, depuis un certain nombre d'années, la protection de la nature a fait que les phoques... Les populations de phoques se sont remises à se développer parce que le phoque beau marin en particulier, c'était une espèce qui était fréquente sur notre littoral. Au début du XXe siècle, il y avait des populations de phoques relativement importantes sur le littoral. Alors, le phoque, c'est un concurrent pour les pêcheurs. Le pêcheur considère que le phoque est un concurrent pour lui. Et au début du XXe siècle, en fait, on a éliminé tous les phoques qui vivaient, par exemple, en baie de Somme. À 800, il y avait sur le banc à la ligne une population importante de phoques. Et il est relaté dans les journaux de l'époque qu'on a fait venir l'armée pour décimer les phoques. Parce que c'était une concurrence pour les pêcheurs, qui étaient des pêcheurs côtiers, qui étaient des pêcheurs avec des bateaux qui venaient des bateaux d'échouage. Et eux, c'était une concurrence pour eux, donc ils refusaient. Alors depuis lors, la protection s'est mise en place, un peu en France, mais il n'y avait plus de phoques, mais à l'étranger, en Écosse, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Donc les phoques beaux marins, ils ont vu leur population se développer. Les phoques gris, ils ont vu aussi leur population se développer. Et puis, c'est comme toute espèce, il faut trouver de nouveaux territoires. Donc aujourd'hui, la Côte d'Opale, ça devient un territoire pour les phoques. Donc aujourd'hui, on a des faux marins. Alors, dans la rade de Boulogne, ce qu'on voit, surtout en période hivernale, du côté de la digue, au matin de bonne heure, si vous avez la chance, en hiver, quand il fait froid, à marée basse, le matin de bonne heure, sur le sable qui s'étale côté intérieur de la digue, ben, vous allez pouvoir voir, il y a 4-5 phoques qui sont là en train d'attendre que le soleil se lève pour aller dans l'eau. Après, ils vont rester dans la rade, et puis après, ils vont aller se promener, circuler un peu partout. Il y en a de plus en plus en baie de Somme. En baie de Somme, il y a la plus importante population en France. Il y en a en baie d'Outy. Alors ça, ben, je suppose que vous connaissez la baie d'Outy et que vous avez déjà été voir les phoques en baie d'Outy. Là, c'est un spectacle permanent. Bon, nous, à Nausicaa, lorsqu'on fait l'animation, on dit toujours à nos visiteurs, vous venez voir les otaries qui sont des représentants de la biodiversité, qui sont des représentants des espèces en voie de disparition qui ont été préservées par la création de réserves marines. C'est très bien de venir nous voir, mais sachez que quand vous allez sortir de Nausicaa, des phoques, vous pouvez aller en voir là tout près, il n'y en a pas très loin. Alors il y a les phoques, puis après il y a aussi les marsouins. Alors il y a les marsouins, en fait, le marsouin c'était une espèce qui vivait principalement dans le haut de la mer du Nord, il y a encore une vingtaine d'années. La surpêche, la pollution a fait que la mer du Nord, aujourd'hui elle est vidée. Et que, en fait, ces populations de marsouins ont eu tendance à descendre. Alors, est-ce que c'est lié uniquement à la surpêche? Est-ce que c'est lié au problème de changement climatique? Aujourd'hui, il y a encore des tas d'hypothèses à savoir pourquoi ils sont en train de descendre vers le sud. Et aujourd'hui, en fait, les marsouins, il y en a sur tout le bas de la mer du Nord et toute la Manche. Et ils ont tendance à glisser de plus en plus vers l'océan Atlantique. Alors, après, il y a des grands dauphins qui remontent par chez nous de plus en plus. Donc en période estivale, au mois d'août, septembre, on a des grands dauphins. Il y a des baleines à bosse aussi. Donc de plus en plus, en fait, il faut bien se dire que les mammifères marins, on va les retrouver à proximité de chez nous. Et les belles images qu'on voit des îles ou de l'Alaska ou de la Norvège avec tous ces animaux fabuleux marins, aujourd'hui on peut considérer qu'on peut les voir. Alors moi, quand je vais, moi j'habite au Portel, donc je vais au Cap à Albrecht, quand il y a mer d'huile, c'est pas rare de voir des marsouins qui marsouinent, quoi. Donc l'image du grand bleu qu'on a dans la tête, la grande affiche avec le dauphin qui saute hors de l'eau, au bout de sa jumelle, on peut la voir presque tous les jours maintenant. Mais c'est quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas les otaries qui les attirent. C'est des fabulations. Il y a des tas d'histoires avec les marins pêcheurs qui considèrent que c'est une concurrence. Ce qu'il faut dire, c'est que si ces animaux sont là, ce sont des animaux qui sont en haut de la chaîne alimentaire, ce sont des grands prédateurs. S'ils sont là, ça veut dire qu'il y a de quoi en dessous. Et que tant qu'ils sont là, c'est rassurant. Le jour où ils vont partir, ça voudra dire qu'ils n'ont plus envie d'être là et que peut-être il n'y a plus rien à manger. Et s'il n'y a plus rien à manger pour eux, il n'y aura plus rien à manger pour nous non plus.
Bien, on va travailler à notre conditionnement. Donc nous, chez nous, c'est la coupette de bulles. Hein. Donc on va y travailler là dès à présent dans l'auberge. On remercie M. Bourguin pour cette très belle conférence. Continuer la conversation avec M. Bourguin à l'auberge.
Merci à vous, j'espère que je ne vous ai pas trop filmé.
C'était parfait. Merci beaucoup.
M. Bourguin, je vais vous donner mon numéro.
Je vais regarder autrement maintenant que j'ai...